Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Le psychodrame est collectif, ses racines sont profondes et ses conséquences cruciales pour le pays, comme pour ses voisins. Les démiurges qui l'ont déclenché sont sortis de scène, laissant leurs successeurs à la peine, leur formation politique en pleine convulsion et leurs concitoyens dans un épais brouillard. Le Royaume-Uni ne sait pas comment sortir de l'Europe, il ne sait même plus s'il le souhaite encore. 2 ans et demi après un référendum, des négociations ardues avec Bruxelles et des débats insulaires qui ont tourné véritablement à l'obsession, on saura mardi si l'accord de divorce signé fin novembre entre les 27 membres de l'Union européenne et la première ministre britannique reçoit l'approbation de son Parlement. Une Theresa May mise à mal pour des raisons absolument contradictoires par la démission de plusieurs de ses ministres, les divisions et les intrigues de son propre camp. Une Theresa May déterminée néanmoins à faire son devoir. Jusqu'à quand l'accord a-t-il la moindre chance de passer? Quels sont les scénarios de rechange? Le gouvernement britannique peut-il tomber? Un nouveau référendum est-il possible? Y aura-t-il, au contraire, un Brexit sans accord? Côté européen, la ratification au niveau des 27 États membres et du Parlement européen peut-elle poser problème avant que ne commence la véritable négociation sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union? Qui sont enfin à ce stade les perdants et les gagnants de ce feuilleton complexe et interminable dont l'impact économique et financier donne lieu aux calculs les plus divergents? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et membre de l'Institut universitaire de France. Mathilde Moine, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau, économiste, professeure de macroéconomie à Sciences Po Paris. Vivien Pertuzot, chercheur associé à l'IFRI. Et en duplex, depuis la radio-télévision irlandaise à Dublin, nous accueillons Kevin O'Rourke. Vous êtes professeur d'histoire économique à Oxford et professeur invité à Sciences Po Paris. Par téléphone aussi, mais de Lisbonne cette fois, Dennis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes. Pauline Schnapper, expliquez-nous donc la situation politique à Westminster à 3 jours de ce fameux vote. À lire la presse britannique, qui est comment dire, souvent cruelle, Theresa May, la première ministre, serait titubante, chancelante, et il y a eu, si ma mémoire est bonne, 3 ministres successifs qui se sont succédés pour s'occuper du Brexit.
Oui, la situation est compliquée, on va dire. Donc il y a un vote, on attend un vote crucial mardi sur l'accord qui a été signé il y a quelques jours à Bruxelles, qui porte sur la transition, donc sur les 2 années normalement qui séparent la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars de la fin de l'année 2020. Or, cet accord est opposé par quasiment toute la classe politique. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais disons que pour des raisons différentes, une bonne partie des députés conservateurs d'une part, tous les députés travaillistes de l'autre, et même les fameux 10 députés unionistes sur lesquels comptent
les Irlandais du Nord
pour se maintenir au pouvoir, pour des raisons tout à fait différentes, tous ces gens refusent l'accord. Pour certains, il va trop loin, pour certains, pas assez loin. Et donc, selon toute vraisemblance, alors il faut toujours être prudent vu les surprises qu'on a eues depuis 2 ans et demi au Royaume-Uni, mais selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de vote positif mardi.
Alors, il faut 320 voix à Madame May pour passer. Il y a en principe 315 membres du Parti conservateur, mais 90 sont contre. Et comme vous le disiez, du côté travailliste, là aussi, c'est assez embrouillé.
Les travaillistes s'apprêtent à voter contre. Alors là encore, pas toujours pour les mêmes raisons, parce que on en parle moins que le Parti conservateur, mais le Parti travailliste est assez largement divisé aussi sur cette question. Mmh. Donc vous avez le leader Jeremy Corbyn et son entourage proche qui va s'opposer à ce vote parce qu'il espère que le gouvernement May tombe et que de nouvelles élections soient convoquées. C'est ça leur priorité. Parce que en réalité, sur le fond, la position sur le Brexit de Corbyn n'est pas si différente que ça de celle de May. En revanche...
Oui, mais celle de May, elle a changé trois fois. Parce que elle était pour rester. Ensuite, quand elle est devenue Premier ministre, elle a dit, bon, je dois prendre en charge la volonté majoritaire de mes compatriotes. Et puis, elle a dit, ah, il vaut mieux un vrai Brexit plutôt qu'un mauvais Brexit. Et là, elle défend un mauvais Brexit en prétendant que c'est un bon Brexit. Donc, là aussi, c'est difficile.
Il faut suivre, effectivement. Il y a eu diverses... Disons qu'elle est partie d'une position assez radicale, et qui était vraisemblablement une erreur à tout point de vue, aussi bien sur le plan européen que sur le plan national, de dire on sort absolument du marché unique, de l'union douanière, plus de Cour européenne de justice, plus surtout de libre circulation des personnes. Et puis évidemment, confrontée à la réalité des négociations et au fait qu'elle ne pouvait pas obtenir cela, elle a progressivement tourné sur une position plus soft, pour reprendre les termes utilisés outre-Manche, c'est-à-dire où on reste au moins dans un premier temps dans une union douanière, avec l'espoir de signer un accord de libre-échange à terme.
Ce qui est quand même singulier, c'est la manière dont son propre parti, le Parti conservateur, est en rébellion quasi ouverte contre elle, avec dès mardi dernier, donc dès le début de ces discussions parlementaires, deux défaites. Son gouvernement a été condamné pour outrage au Parlement, ce qui ne s'était plus entendu depuis le Moyen-Âge, je crois. Et ensuite, un amendement déposé par un conservateur va donner au Parlement, en fait, le contrôle du processus si jamais cet accord
est rejeté. Absolument. À vrai dire, ça remonte même plus loin encore, hein, parce que quasiment depuis le départ, c'est-à-dire depuis le référendum, il y a des conservateurs qui sont mécontents du gouvernement. Il y a eu des démissions successives et il y a eu déjà un amendement déposé par le même Dominic Grieve du Parti conservateur qui a réussi à obtenir en 2017 que le Parlement britannique ait ce vote, ce fameux vote de mardi prochain. Au départ, le gouvernement n'en voulait pas, mais voulait pouvoir négocier tout seul avec Bruxelles et s'arranger avec Bruxelles. Et c'était déjà un conservateur qui avait déposé un amendement pour qu'il y ait un vrai vote au Parlement. Donc vous voyez que ça ne remonte pas à cette semaine. Depuis le départ, May est empêtrée dans les contradictions du Brexit en général, bien sûr, et les contradictions du Parti conservateur sur l'Europe.
Dennis McShane, merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes membre du Parti travailliste. Que va faire le Labour mardi prochain?
Ils vont tous voter contre Madame May. Ils ne peuvent pas vraiment voter sur un projet d'Europe parce qu'il n'en a pas. Mais c'est une délice de faire trébucher et d'attaquer frontalement Madame May. Et il y a tous les partis unis, les nationalistes écossais, les libéraux démocrates, une centaine qui sert alors des Tories, qui a un plaisir. Donc, je suis à Lisbonne pour le congrès du Parti Socialiste Européen. Monsieur Jeremy Corbyn va parler dans 1 ou 2 heures. Bien sûr, c'est un vedette, c'est notre Jean-Luc Mélenchon, mais, comme a dit le speaker avant, lui aussi est très réticent. Il ne veut pas en Europe, acceptons les règles qui acceptent les autres pays de l'Union Européenne. Donc, chaos total. Si j'étais général de Gaulle, je parlais d'un chien en lit parlementaire. Jamais vu dans ma vie, jamais vu pendant une centaine des années. Confusion, incohérence. C'est les gilets jaunes qui maintenant occupent les bombes du Chambre des communes anglaises.
Enfin, les gilets tout court, mais pas nécessairement jaunes. Donc, vous pensez que de toute façon, cet accord, qu'il faut le rappeler, portait sur le divorce, mais non pas sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, cet accord n'a aucune chance de passer mardi?
Il est difficile, honnêtement. Je croyais avant que oui, parce que tous les rapports, tous les jours, on se parle de chaos, 87%. De tous les arrivées de la nourriture périssable, c'est-à-dire les salades, les fruits qui arrivent par Douvres et de Calais, seront bloqués. Un rapport aujourd'hui, 59% de le secteur des services, très important pour l'économie britannique, va être réduit à rien si on quitte l'Union européenne. Mais pour le moment, Madame May a géré l'affaire du depuis trois mois si maladroitement que je pense que mardi, on va voir un vote, peut-être même le retrait de le projet de loi, la motion. Elle rentre à Bruxelles, tâcher de trouver un ou deux mots de plus de la part des négociateurs de bruxellois et retâcher encore une fois. Le parti n'est pas terminé mardi, mais sera une défaite, une humiliation écrasante pour Madame May. Et toutes les promesses de le camp de Brexit il y a 30 mois sont totalement évaporées. Ils se dévorent comme les enfants d'une révolution. C'est pitoyable de voir l'état de la classe politique anglaise actuellement.
Dennis, restez avec nous quelques minutes encore, si vous voulez bien. Le temps que je demande à Vivien Pertuso, ce qui peut se passer sur le continent. Est-ce que l'on peut imaginer que Madame May n'arrive pas à faire passer cet accord, laborieusement négocié quand même pendant deux ans par Michel Barnier? Est-ce qu'on peut imaginer condition que son gouvernement ne tombe pas mardi, qu'elle puisse obtenir des 27, qui doivent se réunir en sommet, je crois, à la fin de la semaine prochaine, de nouvelles concessions ou une nouvelle formulation?
Alors la réponse est simple, non. C'est vrai que finalement, ce qu'on a eu pendant toute la période des négociations, c'est une position très solide, très robuste de la part des 27, qui ont négocié quasiment d'une seule voix, à quelques exceptions près, selon les dossiers. Et donc on arrive à ce que les Européens sont prêts à concéder aux Britanniques. Alors les Britanniques ont l'impression que les Européens n'ont fait aucune concession. Bon, après, on peut ergoter. Mais c'est vrai qu'on arrive dans une situation où les Européens seraient probablement incapables de faire de nouvelles concessions qui, de toute manière, même s'il y en avait de nouvelles, ne satisferaient pas les Britanniques. On est dans une situation où on pourrait faire des amendements à la marge, peut-être modifier un petit peu quelques petites choses, mais c'est pas ce que les Britanniques demandent, tous ceux qui vont voter contre l'accord mardi. Donc a priori, il n'y a pas grand chose que les Britanniques peuvent attendre des Européens aujourd'hui.
En fait, au centre de l'accord, ou en tout cas le dispositif qui heurte la plupart des députés britanniques, quelle que soit leur allégeance partisane, c'est ce qu'on appelle le backstop. Alors expliquez-nous ce que c'est le backstop.
Alors là, c'est vraiment lié à la situation en Irlande du Nord, qui est vraiment le point central des difficultés de négociation depuis maintenant 12 mois, parce que les autres points techniques, comme la circulation des personnes ou les citoyens britanniques résidant en Europe et inversement, tous ces points-là avaient quand même été abordés assez rapidement. Le point dur, c'est la question d'une frontière physique entre l'Union européenne et donc qui inclut l'Irlande et le Royaume-Uni. Et donc c'est vrai que ça, il y a eu énormément de négociations autour de ça. On est arrivé à une situation qui ne plaît pas beaucoup aux Britanniques notamment. Et donc là-dessus,
ça consiste à dire que le Royaume-Uni reste dans l'union douanière,
oui,
pour éviter qu'il y ait une frontière physique entre les deux Irlandes, ce qui ranimerait éventuellement des drames terribles. Donc ça veut dire que le Royaume-Uni reste s'il n'y a pas d'accord. Mais donc ça veut dire qu'il reste dedans, mais sans pouvoir peser du tout sur les décisions prises.
C'est à peu près ça, oui.
Kevin O'Rourke, nous partons donc vous rejoindre à Dublin. Merci mille fois d'être en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire économique à Oxford. Vous êtes irlandais. Est-ce que finalement c'est l'Irlande qui s'en sort le mieux de cet accord sur le divorce, en tout cas pour le moment?
Non, vous savez, le Brexit est catastrophique pour l'Irlande, même si on a un accord qui nous protégera dans la mesure où on évitera une frontière physique entre les deux Irlandes. C'est quand même la sortie de notre voisin le plus proche avec lequel on a beaucoup de liens économiques, et ça risque de vraiment gâter les relations anglo-irlandaises qui ont été très bonnes depuis deux décennies, ce qui est surprenant vu notre histoire. Alors juste une petite précision, pour le backstop, il faut que l'Irlande du Nord de fait reste et dans l'union douanière et dans le marché unique, pour les biens et dans l'espace européen de TVA dans la politique agricole commune, de fait. Alors, ce que Mme May a obtenu, c'est une énorme concession de la part des Européens. Elle a obtenu que la partie union douanière de cet ensemble soit faite au niveau du Royaume-Uni tout entier, ce que beaucoup de gens côté européen, et notamment, il me semble, en France, auxquels étaient complètement opposés. Donc, c'était une énorme concession qu'il a fallu avaler côté européen. Et maintenant, ça se retourne contre elle, car la partie qui n'est pas à l'échelle du Royaume-Uni, donc le marché unique, ça ne plaît pas aux unionistes. Le parti qui est à l'échelle du Royaume-Uni entier, ça ne plaît pas aux nationalistes anglais qui souhaitent prendre le grand large et conclure des merveilleux accords de libre-échange avec M. Trump et le président Xi.
Oui, mais quel scénario politique voyez-vous court terme, oui, après mardi prochain?
N'étant pas psychothérapeute, je ne suis probablement pas le mieux placé pour répondre à cette question. Il est très difficile de le prédire. Si le cours de justice lundi nous surprenait tous et avec son jugement concernant la révocation de l'article 50, ça éclaircirait les choses. Mais
ah oui, alors fait... ça, pardon, je vous arrête pour que vous nous expliquiez mieux. L'avocat général de la Cour de justice européenne a déjà dit, enfin, a interprété l'article, le fameux article 50 que franchement pas grand monde avait lu avant le référendum britannique. Et donc cet avocat général explique qu'en fait, le Royaume-Uni pourrait révoquer unilatéralement la procédure de divorce.
Voilà. Et donc, ça a donné un grand coup de pouce à ceux qui vont voter contre Mme May parce qu'ils espèrent pouvoir ainsi avoir un deuxième référendum. Donc, si le cours de justice allait dans le même sens lundi, donc juste avant le vote, probablement ça sera pire pour Mme May. S'ils allaient dans l'autre sens, alors il y aurait beaucoup de gens qui devraient faire un revirement assez dramatique, mais je n'y crois pas. Pas, honnêtement.
Donc ce serait en quelque sorte, oui, une bouée de sauvetage lancée par la Cour européenne de justice, dont en principe les Brexiteurs évidemment ne veulent surtout pas, mais qui permettrait en fait de considérer que on peut passer à une autre phase, un autre. Enfin, on peut considérer en gros que voilà que ce référendum d'il y a 2 ans et demi n'a plus d'effet.
Oui, enfin oui, si la Cour de justice dit oui, vous pouvez révoquer, alors ceux qui souhaitent un deuxième référendum pourront voter contre Mme May mardi. Si la Cour de justice nous surprenait tous et disait non, de toute manière vous allez sortir le 29 mars, il n'y a rien à faire, alors ceux qui espèrent un deuxième vote devraient recalibrer leur position. Mais il me semble que le vrai problème, c'est comme Dennis l'a dit, le Parlement est en train de voter contre Mme May pour des raisons complètement opposées les unes aux autres. Et ce qui m'inquiète, je dois dire, ces jours-ci, c'est qu'il y a ceux qui souhaitent un deuxième référendum. Il y a ceux aussi qui souhaitent un Brexit doux à la norvégienne, mais assorti éventuellement d'une union douanière, ce qui plairait beaucoup aux Irlandais, bien sûr. Mais ces deux équipes-là, ces deux tribus-là, sont en train de s'attaquer mutuellement, les uns les autres. Et le risque, c'est qu'ils vont faire tellement de dégâts les uns aux autres qu'en fin de compte, on aura un Brexit sans accord par erreur, ce qui serait bien britannique, car comme on l'a toujours dit, leur empire aussi était érigé par erreur.
Là, on reconnaît un humour britannique que nous apprécions tous. Dennis McShane, merci d'être resté avec nous. Vous avez publié, il y a quelques mois, un petit livre au titre prophétique, « Le Brexit n'aura pas lieu ». Vous pensez toujours que le Brexit n'aura pas lieu, ou est-ce que vous pensez, comme Kevin O'Rourke, qu'en fait, il se peut très bien qu'il n'y ait pas d'accord du tout, et que voilà, que la Grande-Bretagne quitte définitivement l'Europe? Et là, encore une fois, les points d'interrogation sont multiples.
disons que l'argument dans mon livre était qu'il faut penser à Brexit au pluriel, pas à Brexit au singulier.
Ah oui, donc, voilà, pour simplifier les choses, oui.
Plusieurs Brexit sont possibles. Kevin a mentionné le Norvège. Je crois que ce serait difficile, sauf qu'il y a vraiment un revirement total, marche en arrière total de Madame May et de Jeremy Corbyn. On va probablement certainement quitter l'Union européenne politiquement le 29 mars, c'est-à-dire on serait plus signature, mais on veut garder des liens économiques. Trouver une piste sortie de l'impasse la semaine prochaine, pardon, de mardi prochain, elle sera difficile, mais pas impossible. Il y a aussi qui flotte très, très sérieusement dans le ciel l'idée de deuxième référendum. Je ne pense pas personnellement que c'est rien à voir avec le Cour de justice européen. Si encore Madame May dit haute les mains, donnez-moi encore quelques mois pour organiser un deuxième référendum. Je crois que le 27 sera oui, ils vont dire oui, 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 parce que c'est une défaite écrasante pour les anti-européens. Mais là, elle va diviser et probablement rupturer son parti. Enfin, je crois que les Anglais, qu'est-ce que Napoléon nous a décrit comme une nation des boutiquiers? On est des commerçants. On va pas s'inscrire dans une clinique économique de Dignitas à Zurich pour se suicider économiquement parlant. Ça, je crois, à la fin, sera impossible. Mais arriver à trouver une solution pour le moment, ça va être difficile.
Merci, Denis, d'avoir été avec nous et on vous laisse au discours de Jeremy Corbyn. Mathilde Lemoine, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur de macroéconomie à Sciences Po. Il faut dire que on y perd son anglais à essayer de comprendre nos amis britanniques et irlandais, d'autant qu'on a vu circuler des chiffres extrêmement alarmant de la part de la Banque d'Angleterre d'un côté, de la part du gouvernement aussi, du gouvernement de Madame May, et puis d'autres chiffres qui, au contraire, semblent minorer l'impact des trois scénarios possibles, c'est-à-dire l'accord ne passe pas mardi, le gouvernement tombe, ou au contraire, Madame May survit. Et elle peut espérer de Bruxelles 3, à la marge en termes de modification, ou alors c'est véritablement la rupture avant même le 29 mars. Alors, non pas que les chiffres des économistes soient toujours, leurs prévisions soient toujours très crédibles, mais qu'est-ce qu'il faut croire ?
Alors, les modèles tant de la Banque d'Angleterre que du gouvernement britannique laissent attendre une chute du produit intérieur brut de plus 8% à peu près s'il n'y a pas d'accord. Mais ce n'est pas une prévision. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que ces modèles sont basés sur des hypothèses extrêmement restrictives. Un exemple, par exemple, la Banque d'Angleterre fait ses calculs si jamais le gouvernement britannique subit un non-accord sans négocier d'autres relations privilégiées avec d'autres pays dans le monde. Donc une espèce de statu quo. Or, on voit bien que ça ne se passera jamais comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces calculs sont basés sur des hypothèses irréalistes, mais parce que la Banque d'Angleterre ne peut pas intégrer des hypothèses réalistes, puisque ça supposerait qu'elle sache ce que veut faire le gouvernement britannique. C'est-à-dire, ça supposerait qu'on puisse rentrer dans les modèles. Est-ce que le gouvernement britannique va négocier un accord privilégié avec Trump ? Lequel ? Et dans ce cas-là, même si les exportateurs britanniques vendent moins dans l'Union européenne parce qu'il y a plus de droits de douane, ils pourraient vendre plus aux États-Unis. Et c'est ce qu'on appelle les détournements de trafic. Et ces éléments-là ne sont pas présents dans ces évaluations qui restent, toutes choses égales par ailleurs, et de mon point de vue, assez idéologiques.
Mais ces détournements de trafic, comme vous dites, resteraient de toute façon en tout cas à moyen terme, très marginaux par rapport à l'importance des liens économiques existants entre le continent et les îles britanniques.
Ça va très vite. Par exemple, quand vous regardez l'Italie, qui est aussi dans une situation de crise et qui doit exporter pour relancer son économie, les exportateurs italiens se sont réorientés vers les États-Unis aux dépens du Royaume-Uni parce que ça devenait trop compliqué. L'Allemagne s'est réorientée au moment du ralentissement chinois vers les États-Unis aussi. En deux trimestres, vous pouvez augmenter la part des exportations de plusieurs points et donc ça va extrêmement vite. Le deuxième élément à avoir en tête pour l'économie britannique et son avenir dans ses relations avec l'Union européenne, ce sont évidemment les secteurs financiers. Le Royaume-Uni exporte, l'Union européenne représente 44% des exportations britanniques de services. Et le Royaume-Uni a un excédent, c'est-à-dire qu'ils sont compétitifs en matière de services financiers. Et c'est très important parce que ça compense une partie de la faible compétitivité des entreprises britanniques. Donc en fait, c'est un moyen pour eux d'avoir des devises et donc de pouvoir financer les importations de biens industriels notamment. Et l'enjeu pour les Britanniques est là. Et c'est vrai que dans l'accord transitoire, on ne sait absolument pas ce que ça va devenir.
Et de mon point de vue, ce serait l'un des gros enjeux de la véritable négociation qui devrait commencer après le 29 mars, mais qui pourrait durer encore 20 ans.
Oui, et qui montre que la zone euro a tout à gagner et le Royaume-Uni a tout à perdre. Parce que un des enjeux, c'est de permettre de remettre une espèce d'architecture financière liée à l'euro au sein de la zone euro. Et d'ailleurs, c'est un tel enjeu pour les Britanniques que Donald Trump est venu au secours des Britanniques, l'administration américaine, pour dire qu'il ne fallait pas que les pays de la zone euro reprennent la maîtrise de ce qu'on appelle les chambres de compensation. C'est tout ce qui se passe hors bourse, en fait. C'est toutes les négociations hors bourse.
Donald Trump qui a fait aussi un joli croque-en-jambe à Madame May en disant que c'était véritablement un très très mauvais accord. Donc il dit ça quelques jours avant la discussion.
Mais dans les faits,
au Parlement britannique,
ils sont venus au secours des Britanniques sur les questions financières. Et ça n'est pas non plus dans les modèles de la Banque d'Angleterre ni du gouvernement. Et on voit bien que c'est extrêmement complexe, qu'à court terme, de mon point de vue, le Royaume-Uni peut vraiment souffrir d'un rapatriement des services financiers vers la zone euro. Et on peut aussi imaginer qu'à plus long terme, ce soit bénéfique parce que ça va se traduire par une baisse du prix immobilier au Royaume-Uni. Donc ça va permettre aussi aux ménages britanniques de dépenser moins en logement, de pouvoir investir plus. Vous voyez, on peut avoir des effets de second cours qui sont positifs.
Et tant pis pour les oligarques qui vont perdre évidemment une bonne partie de leur patrimoine immobilier. Pauline Schnappe, on méconnaît la réalité de l'économie britannique, hein, en fait, et surtout en pleine crise existentielle chez nous en France. Il faut quand même savoir que les disparités de revenus sont beaucoup plus fortes en Grande-Bretagne que chez nous.
Oui, la situation, disons, sociale au Royaume-Uni est très dégradée par rapport à il y a 20 ans, disons, et elle explique en bonne partie le résultat du référendum de 2016, où, comme on l'a vu ailleurs, l'Europe a servi un peu de bouc émissaire. L'Europe, Bruxelles, mais aussi Londres, était clairement la cible de beaucoup
d'électeurs. Mais avec des mensonges dont les auteurs reconnaissent aujourd'hui que c'était vraiment des mensonges.
Ailleurs. Mais surtout, ces partisans du livre se sont appuyés sur un vrai mécontentement à la fois géographique, géographique, c'est-à-dire c'est surtout le nord de l'Angleterre et les zones périphériques, Pays de Galles, dans une moindre mesure Écosse, qui ont souffert, disons, depuis 10 ans, depuis la crise de 2008, mais pas seulement la crise elle-même, mais aussi des politiques qui ont été adoptées à la suite de la crise, des politiques d'austérité depuis 2010.
Des politiques d'austérité qui, par rapport à ce que nous avons vécu, nous, sont vraiment des politiques d'austérité.
Qui ont été extrêmement brutales. Alors, c'est pas tant... Comme vous savez, les problèmes sociaux au Royaume-Uni sont pas tant liés au chômage. Par exemple, le taux de chômage est très faible, mais ils sont liés aux questions de salaire, d'une part. Les salaires sont peu élevés. Et surtout, l'austérité a été marquée par des réductions drastiques des dépenses publiques dans tous les domaines, y compris éducation, mais surtout les aides sociales en tout genre. Et on a un niveau de pauvreté aujourd'hui au Royaume-Uni qui reste très élevé. Et pour en revenir, par exemple, simplement à la question des salaires aujourd'hui, en moyenne, n'ont toujours pas récupéré leur niveau d'avant 2008.
Est-ce que cela veut dire, si on imagine qu'il peut y avoir un nouveau référendum, alors maintenant les instituts de sondage, qui, il faut le rappeler, c'était quand même beaucoup trompé au moment du référendum il y a 2 ans et demi, disent, ah mais cette fois, il pourrait y avoir une majorité de Britanniques pour rester dans l'Union européenne. Cela voudrait dire que les mêmes causes profondes, sociologiques, économiques, ne produiraient plus les mêmes effets.
Les instituts de sondage sérieux sont plus prudents que cela. Il n'y a pas eu de mouvement massif, clairement, en faveur de rester dans l'Union européenne depuis des mois. Ce qu'on mesure, c'est un très léger glissement, en particulier des électeurs travaillistes, en direction du Remain, alors qu'ils avaient été partagés à, disons, 2/3, 1/3, en faveur de Remain. Il semblerait que cette proportion soit plus forte aujourd'hui. Mais si vous voulez, si les sondages nous donnent aujourd'hui 52-48 pour rester, c'est aussi les chiffres qu'ils donnaient, comme vous y avez fait allusion, quelques semaines avant le premier référendum. Donc, pour que ça ait vraiment une valeur, il faudrait que ce soit des chiffres 60-40. Là, on pourrait vraiment leur faire confiance. Tant que ça reste à 52-53, il faut rester très prudent là-dessus. Et comme vous dites, les causes profondes qui avaient souvent peu à voir avec l'Europe en réalité n'ont absolument pas été réglées depuis 2 ans et demi, ne serait-ce que parce que le gouvernement ne s'occupe que du Brexit.
Néanmoins, ce qui a changé, c'est quand même le niveau d'information de l'opinion publique par rapport aux réalités qu'impliquerait une sortie de l'Union européenne.
Oui, c'est la seule chose sur laquelle les gens ont ouvert les yeux.
Mais c'est
majeur. Important. C'est tout à fait important. Mais ça suppose, si vous voulez, ça c'est clair. Les gens se rendent compte qu'on les a floués, qu'on leur a raconté des histoires. Est-ce que pour autant ils changeraient d'avis sur le besoin de reprendre le contrôle, d'être souverain, d'arrêter l'immigration? Le passage de l'un à l'autre ne va pas de soi. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent sur l'éventualité d'un résultat différent s'il y avait un deuxième référendum.
Il est intéressant de noter d'ailleurs qu'un très bon politologue britannique qui s'appelle, ancien journaliste, enfin parfois ils peuvent bien tourner, il s'appelle David Goodhart, a écrit ce livre où il explique le fossé qui sépare ceux qui sont de partout, de anywhere, à ceux qui sont de somewhere.
Oui, il y a un débat autour de ce livre auquel certains reprochent d'un certain manichéisme entre les gentils somewhere, vraiment ancrés dans le réel, et les méchants cosmopolites qui ne comprennent rien à la réalité.
Goodhart a contribution pour nous expliquer les gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Goodhart est partout. Bon, il y a des choses très juste là-dessus, mais bon, c'est un peu, on retrouve le même débat en France. Il faut faire attention, pas non plus à simplifier des divisions, mais ces divisions existent, ça c'est clair, entre les grandes villes d'une part, les petites villes et les campagnes de l'autre, elles existent en Angleterre, très clairement, beaucoup moins en Écosse, mais certainement en Angleterre, et elles existent en France aussi.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International, notre partenaire depuis que cette émission existe. Ce qui est très intéressant dans le personnage de Theresa May, qu'on a eu tendance à caricaturer ou à critiquer dès le début, c'est qu'elle appartient véritablement à ces Britanniques de somewhere, fille de pasteur, très enracinée, évidemment convaincue qu'elle doit faire son devoir, à tel point que les sarcasmes parfois se sont inversés. On a dit, alors certes, elle s'y prend peut-être mal, mais au moins elle tient le coup.
Oui, effectivement, en tout cas, si vous avez trouvé un journal, c'est le journal conservateur Télégraphe, qui lui a tressé des lauriers. Alors certes, le journaliste reconnaît qu'il n'est pas le plus grand fan de la Première ministre, mais il lui tire quand même son chapeau. Peut-être pensez-vous qu'elle a trahi l'idée même que vous faisiez du Brexit avec son projet d'accord, écrit-il en s'adressant à ses lecteurs. Peut-être estimez-vous qu'elle a engagé le pays sur la voie d'un désastre en s'entêtant à mettre le Brexit de toute façon en œuvre. Ou peut-être vous dites-vous, comme moi-même, qu'elle a fait de son mieux face à une tâche plus qu'épineuse, voire impossible. Car c'est la bonne qualité, Theresa May, c'est ça, c'est cette détermination. Elle a tenu bon, elle n'a pas lâché, écrit-il. Et puis une nuance quand même un peu. Peut-être elle n'y arrivera pas. Et c'est vrai, surtout après cette semaine horribilis que vient de vivre Theresa May, toute la presse britannique parie désormais sur son échec à faire passer son projet d'accord sur le Brexit auprès des parlementaires. Le tabloïd d'ailleurs Daily Mirror titrait cette semaine « L'autorisé de Theresa May est en lambeaux ». Le Guardian, lui, évoque à travers sa prestation cette semaine au Parlement une première ébauche de sa propre nécrologie politique. Encore un jour d'humiliation autour du Brexit, mais pourquoi donc Theresa May reste-t-elle si calme, se demande à nouveau le Télégraphe, sans doute effectivement par ce sens du devoir. James Kirkup, qui est journaliste au Télégraphe, louait donc encore récemment la ténacité qui anime cette femme de 62 ans et qui tranche, nous dit-il, avec le comportement de son prédécesseur. Ainsi raconte le journaliste David Cameron, commentait son départ soudain après sa défaite lors du référendum sur le Brexit de juin 2016 avec la question suivante: pourquoi est-ce que je devrais me taper toute la merde. Theresa May est évidemment plus polie, mais aussi plus courageuse. Quand elle a commenté son propre échec aux élections de l'an dernier, elle disait à ses collègues: c'est moi qui nous ai mis dans ce pétrin, c'est moi qui vais nous en sortir. Pas sûr qu'elle y arrive, car cette fois-ci, ses jours semblent compter et la presse ne l'épargne pas. Voici par exemple ce que raconte le Guardian à propos de Theresa May. Certains d'entre nous à Westminster ont longtemps cru que Theresa May était une agente dormante dont la mission était de saper son propre gouvernement. Parce que les actions du Premier ministre n'ont plus rien de secret, cette théorie du complot est maintenant officiellement morte. Parce que les actions du Premier ministre n'ont plus rien de secret, elle est entièrement disposée à utiliser toutes les opportunités pour détruire sa propre crédibilité. May s'est transformée en voyou, poursuit l'auteur de cet article du Guardian, une femme Terminator dont les systèmes sont criblés de logiciels malveillants et qui est déterminée à tout détruire autour d'elle, le gouvernement, le pays, l'univers, mais surtout elle-même.
Alors pour autant, le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, n'a pas droit à beaucoup plus de compliments.
Ben oui, il y a 69 ans, l'ancien rebelle du Parti travailliste n'a jamais pourtant été aussi proche du 10 Downing Street. Et en même temps, eh bien, rien n'est encore fait pour le chef de file du Labour, qui fait figure aussi de dinosaure de politique. Il faut rappeler qu'il est député de la même circonscription de Islington North depuis 1983. Et dans un portrait que lui a consacré le journal New Statesman, la revue New Statesman, c'était en septembre, au moment de la convention du Parti travailliste à Liverpool, eh bien, le journaliste pointait bien du doigt ce paradoxe incarné par Jeremy Corbyn. Il est à la fois exécré par une grande partie de la classe politique et médiatique, et en même temps, il est très populaire auprès de la base. Tout comme le Corbyn de Westminster catalyse la colère et le mépris confus de ses détracteurs, le Corbyn en tournée est aussi un paratonnerre des ambitions, des peines et des doléances diffuses de sa base, écrit Patrick McGuire dans The New Statesman. Alors, tout à sa tâche de rassembler ces deux mondes, Jeremy Corbyn a soigneusement fait l'impasse sur le sujet du Brexit et il s'est bien gardé de trop s'engager. Une attitude cynique qui ne peut plus durer longtemps, juge le Huffington Post dans la version britannique. Le Huffington Post qui poursuit: même si Corbyn parvient à obtenir des élections générales et à les gagner, il devra mettre en œuvre le Brexit et n'obtiendra sans doute pas un meilleur accord que Theresa May.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Kevin O'Rourke, vous êtes à Dublin, dans les studios de la radio-télévision irlandaise. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous enseignez l'histoire économique à Oxford et vous êtes professeur invité à Sciences Po Paris. Ce qui continue de nous sidérer de l'autre côté de la Manche, c'est la totale impréparation britannique à ce Brexit. C'est-à-dire qu'en fait, depuis que les résultats du référendum ont été connus, on a constaté que cette administration admirable était complètement perdue et ne savait pas comment répondre aux demandes parfois contradictoires du gouvernement.
Oui, il y a un manque de préparation à deux niveaux. D'abord, il y a un manque de préparation au cas où il y aurait un Brexit archi-dur sans accord. On peut peut-être comprendre cela car on a présumé depuis un bon moment qu'il y aurait quand même, en fin de compte, un accord et une période transitoire qui leur permettrait de mettre en place le dispositif nécessaire après. Mais il y a aussi eu cette manque de préparation plus profonde, plus foncière, dans la mesure où ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Voilà, c'est ça leur vrai problème. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, mais c'est le reflet du fait qu'il y a une partie du Parti conservateur qui souhaite le beurre et l'autre souhaite l'argent. Donc, il y a une partie qui est plutôt pro-européen qui souhaite conserver des relations commerciales sans friction avec l'Union européenne, et il y a l'autre bout du parti qui souhaite prendre le grand large, déréglementer, passer des accords de libre-échange avec tout le monde. Et ces choses-là ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Madame May n'a pas réussi à imposer une seule vision cohérente sur son parti, et donc c'est le désarroi qui continue d'ailleurs. Il y a eu récemment... Ces estimations des coûts du Brexit dont vous parliez tout à l'heure, il y avait un de la ministère des Finances qui disait que dans le scénario où il y aurait l'accord de Madame May, il y aurait quand même des relations commerciales sans friction avec l'Union, ce qui est strictement impossible vu qu'ils ne seront pas dans le marché unique. Et alors ils ajoutent, bien sûr, tout le monde côté européen n'est pas d'accord avec cette hypothèse. Donc le beurrisme, le désir de voir le beurre et l'argent du beurre est profondément ancré dans leur système, malheureusement.
Mais sans vous demander, encore une fois, d'être psychothérapeute, comment expliquer ces illusions qui perdurent? C'est quoi? C'est le mythe de la souveraineté qui continue de répandre ces vapeurs, enfin de la souveraineté absolue, en mémoire de l'Empire, le Commonwealth, l'anglosphère, tout ce qui continuerait à nourrir l'exceptionnalisme britannique?
Oui, il y a plusieurs réponses à cela. Donc, tout d'abord, je crois que c'est chic côté conservateur de dire l'Europe c'est ennuyeux.
Il n'y a pas qu'en Grande-Bretagne qu'on le dit. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais jamais vous n'entendrez une émission sur la radio discutant de l'Europe où quelqu'un commencera par dire aux auditeurs je m'excuse, ça va être très ennuyeux, mais il faut quand même qu'on le fasse. Donc quand on est dans cet état d'esprit-là, difficile alors de comprendre pourquoi le marché unique fonctionne comme il fonctionne et pourquoi le marché unique est essentiel pour des relations commerciales sans friction, sans barrière à la frontière. Donc il y a une paresse intellectuelle qui est quand même assez importante et que beaucoup de gens disent c'est la faute en fait de mon université, de l'université d'Oxford, qui depuis longtemps a appris aux étudiants de paraître très confiants en répondant à des questions dont les réponses, en fait, ils sont ignorants des réponses. Il y a aussi, comme vous le dites...
Enfin, il n'y a pas qu'à Oxford, hein. Nous avons aussi quelques grandes écoles où ce genre de comportement est amplement favorisé. Mais pardon, voilà. Je vous ai interrompu.
Non, c'est vrai, toutes les élites doivent se reproduire, c'est vrai. Ouais. Il y a aussi une certaine nostalgie de l'Empire, mais comme le disait un Anglais récemment, il y a aussi un oubli de l'Empire. C'est-à-dire qu'il y a cette mythe de 1940 dont les Britanniques sont à juste cause très fiers. Mais la mythe consiste à dire que nous, on était tout seuls face aux nazis, mais en fait, ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait tout l'Empire derrière eux. Il y avait les États-Unis aussi, matériellement, derrière eux. Mais ça, des fois, ils ont tendance un peu à oublier et penser que leur île, tout seul, peut faire ce qu'ils souhaitent, ce qui n'est pas forcément le cas.
Vivien Pertuzot, traversons la Manche. Il ne faut pas oublier que les 27 doivent, eux aussi, ratifier cet accord de divorce. Enfin, sauf s'il tombe dans la Manche mardi prochain. Donc, les 27 et le Parlement européen, est-ce qu'il y a là matière à inquiétude ou ça va rouler tout seul?
A priori, pas vraiment. Encore une fois, hein, vraiment, toutes les négociations se sont passées de manière assez fluide. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vent d'une opposition particulière à l'accord qui a été signé.
Ce qui est tout au crédit de Michel Barnier, hein, faut bien le dire.
Michel Barnier, son équipe, parce que c'est vrai qu'il y a eu, il a été très bien entouré, mais aussi d'une communication quand même plutôt bien faite, plutôt transparente aussi sur ces négociations. Donc c'est vrai que tout s'est fait de manière assez harmonieuse et a priori il devrait pas y avoir de problème majeur au niveau européen concernant l'accord de sortie. On parle que de l'accord de sortie.
Alors expliquez-nous que cet accord de sortie, en principe, s'il passe, s'il est approuvé par le Parlement britannique, c'est pas la fin de l'histoire.
C'est pas la fin de l'histoire, parce que c'est vrai que ce qui reste à négocier, c'est la suite. la suite, c'est-à-dire les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc lorsque l'accord de sortie a été signé, on a déjà quelques éléments de réponse sur le type de négociations que les deux parties souhaiteraient négocier. Mais on n'en est vraiment qu'à des balbutiements à ce stade. On sait que, c'est pas compliqué, à peu près sur tous les plans, on souhaiterait une coopération ambitieuse, profonde, la plus profonde possible, etc. Mais il y a un terme qui revient toujours, c'est on veut un level playing field, c'est-à-dire un terrain de jeu équitable où les Britanniques ne décident pas de règles qui pourraient être contraires, qui pourraient défavoriser les Européens et vice-versa. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui pourrait rendre les négociations sur les relations futures extrêmement compliquées.
Y compris entre les 27.
Y compris entre les 27. Parce qu'on a, en fait, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a des 27 qui sont unis sur l'accord de sortie. Donc ça, c'est une chose. On a des Britanniques qui ne sont clairement pas unis sur l'accord de sortie. Admettons qu'il passe. S'il passe, il faudrait que tous les Européens parlent d'une même voix sur de nouvelles relations. Et là, on sait que ça pourrait être compliqué parce que certains voudront des relations extrêmement proches, sans friction, à tout niveau, que ça soit d'un point de vue commercial, que ça soit en termes de politique étrangère, que ça soit en termes d'échanges, d'éducation,
culture, etc. Ça, ce sont plutôt les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, mais en fait, sur tous les sujets, on peut trouver des pays différents. Faut quand même bien se dire que il y a pas des camps absolument ancrés dans une position ou dans une autre. Et ce qui fait que tout va être compliqué, c'est que chacun a des intérêts un peu divergents. Donc on pourrait avoir une division des Européens parce que la situation européenne dans les différents États membres est quand même particulièrement compliquée. Donc c'est pas forcément facile de lire la position que pourront tenir les Allemands sur le futur accord, les Italiens sur le futur accord, les Hongrois, les Polonais, etc. Et la France.
Et les Français.
On ne sait pas non plus. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de points d'interrogation à ce niveau-là, mais on va dire que le point de départ est on souhaite des relations les plus profondes et les plus proches possibles. Reste la question des services financiers.
Ce qu'on sait aussi, c'est que la Commission à Bruxelles se prépare au scénario où il n'y a pas d'accord, où véritablement la Grande-Bretagne sort. Et là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer.
Ah non, là, c'est terrain inconnu.
Parce que Mathilde Moine, précisément, ça veut dire que toute l'armature réglementaire, législative, qui unit nos pays, donc ça va du transport aérien aux normes de santé publique,
environnementale,
les médicaments, enfin c'est insensé. Je veux dire, les avions britanniques ne pourront plus voler si
l'Eurostar s'arrêtera. Mais pour éviter ça, le gouvernement français, par exemple, et la plupart des gouvernements européens ont déjà pris des mesures pour que, en cas de sortie dure, ça puisse continuer à tourner. Alors avec des effets de friction qui peuvent peser sur les relations commerciales à court terme, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que c'est pas une question de savoir si les économistes font des bonnes prévisions ou pas. Mmh. C'est vraiment que à partir du moment où le politique ne sait pas où il va, c'est impossible de le modéliser. Donc en tout état de cause. Et là, ce qu'on voit, c'est vraiment ça. Et je crois que c'est très naïf de croire que dans les négociations commerciales, on peut faire réaliser des négociations équitables. Enfin, on voit bien dans le monde tel qu'il est aujourd'hui que c'est la loi du plus fort. Et donc de ce point de vue-là, l'Union européenne reste quand même plus forte, même si il y a des dissensions au sein de cette Union européenne, que le Royaume-Uni. L'euro est une monnaie beaucoup plus utilisée que la livre britannique.
La deuxième devise du monde, d'ailleurs.
Exactement. Donc il y a un rapport de force qui fait qu'on voit bien que ne serait-ce que cette façon d'appréhender les choses ou de commenter les négociations telles qu'elles peuvent être est vraiment naïf. Et l'enjeu, depuis le début, pour les Britanniques, et c'est aussi pour ça que Cameron, l'ancien Premier ministre avait aussi eu cette idée, c'est que les Britanniques sont gênés par le poids grandissant de l'euro et des pays membres de la zone euro dans le monde. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment pour les Britanniques de se positionner par rapport à cette monnaie qui est l'euro, qui est le problème depuis le départ. Et on l'a vu concrètement quand les Britanniques avaient attaqué la Banque Centrale Européenne auprès de la Cour de Justice Européenne pour essayer de diminuer justement le poids de la Banque Centrale Européenne. Donc, et ça, aujourd'hui, c'est pas du tout sur la table. Et je crois que, d'ailleurs, le gouvernement britannique a déjà pris des mesures en annonçant un plan de relance budgétaire, justement en augmentant les dépenses sociales, le salaire minimum, en prévoyant des baisses d'impôts pour les PME, pour essayer justement de limiter l'impact négatif de ce manque de visibilité sur l'économie britannique.
Donc mais sans savoir si les bateaux apportant les fruits et les légumes pourront accoster.
Oui,
à Douvres.
Alors oui, voilà. Alors
non, mais après, ça c'est quand même
ils accosteront. Alors peut-être avec des délais parce que il y aura des frontières rétablies, mais en tout état de cause, ils accosteront. Je crois que après on peut avoir. Il faut pas non plus dramatiser. Mais c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire que et c'est ce que vous soulignez, c'est la non préparation qui est frappante depuis le départ. Et donc, encore une fois, c'est très difficile de vouloir faire dire à des modèles économiques ce que le gouvernement lui-même ne sait pas.
Kevin O'Rourke, sur cette notion qu'on peut aussi aller vers un Brexit abrupt, la fameuse chute de la falaise de Douvres, la caricature qui circule depuis des mois et des mois, est-ce que l'opinion publique dans le Royaume-Uni a conscience du désordre que tout cela pourrait créer à court terme ?
D'abord, malheureusement, s'il chute de la falaise, il y a l'Irlande qui est sur la plage en dessous. Mais bon, passons.
Mais là, l'herbe est toujours plus verte.
Voilà. On aura quand même des amis. Tandis qu'eux, ils seront seuls. Il y a certains qui sont très inquiets, bien sûr, et il y a d'autres pour lesquels ce n'est qu'une autre... Tout ce qu'ils entendent là-dessus, c'est une autre tentative de leur faire peur. Et on a malheureusement l'impression que pour beaucoup, ils ne croiront pas que lorsqu'ils ont vu de leurs propres yeux. Le gros risque auquel est affronté le Royaume-Uni maintenant, il me semble, et toutes ces industries dépendantes de chaînes logistiques transeuropéennes. Il y a par exemple Honda, où il y a 2 millions de pièces détachées qui y arrivent chaque jour à leur usine et qu'ils peuvent avoir dans un délai de moins de 24 heures, mais qui viennent de partout en Europe. S'il y a une sortie abrupte où il y a des contrôles frontières, alors les délais peuvent s'étendre jusqu'à 9 jours. Or, pour pouvoir stocker des pièces détachées pour 9 jours de production, il leur faudrait des lieux de stockage grands de 300 000 mètres carrés, donc 42 terrains de jeu de foot. Donc, ça ne se fera pas. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui risquent de perdre leur emploi s'il y a une sortie sans accord. Et je ne crois pas que les gens s'en rendent compte vraiment. Et il y a aussi, il faut le dire, chez certains Brexiteurs durs, un souhait d'une sortie sans accord. C'est ça qu'ils souhaitent positivement parce qu'ils ne veulent plus avoir des liens avec l'Europe qui leur empêcheront de faire ce qu'ils veulent.
Merci mille fois, Kevin O'Rourke, d'avoir été avec nous longuement. Pauline Schnapper, on arrive à la conclusion de cette discussion. Et il faut quand même reconnaître qu'on est quand même stupéfait devant cette illusion britannique qui perdure, cette idée qu'il y aurait une Global Britain, enfin c'est en tout cas le slogan de ceux qui veulent absolument couper les ponts avec le continent. Et à quoi est-ce dû ? Est-ce que c'est une espèce de passé fantasmé, comme Kevin nous l'expliquait ?
Oui, tout à fait. Là, je crois qu'il a mis le doigt sur un aspect important et qui est difficile à saisir du côté français parce qu'on n'a pas du tout la même expérience historique. On n'a pas cette espèce de fantasme du passé en France. On a plutôt des mauvais souvenirs du passé, pas très lointain. Au Royaume-Uni, il y a ce mythe de 40 dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a la nostalgie d'un bon vieux temps où le Royaume-Uni gouvernait le monde, était présent sur toutes les mers.
Le Royaume-Uni marchand, hein. Il faut quand même toujours rappeler aussi
marchand,
cette dimension.
Et puis aussi, il y a quand même des liens qui sont pas seulement marchands, qui sont culturels, historiques, avec des pays comme l'Australie ou le Canada, dont on a plus vraiment idée nous, mais qui reste très fort au Royaume-Uni. Et puis ce semi-mythe et semi-réalité de la relation spéciale avec les États-Unis, qui serait tellement plus importante que les liens qu'on a avec le Royaume-Uni, avec le, l'Union européenne, pardon, avec le continent.
Et cela malgré les facéties.
Alors évidemment, ça tombe
américain.
Un peu mal que ce mythe se déploie à un moment où tout soudain les États-Unis nous trahissent. Mais évidemment, l'espoir, c'est que Trump ne restera pas indéfiniment et que donc on puisse reprendre une relation normale avec une administration américaine qui ne demanderait qu'à signer un accord de libre-échange avec nous, à travailler au sein de l'OTAN avec nous et à poursuivre cette relation privilégiée militaire, diplomatique, dans le domaine du renseignement, etc. Donc il y a tout cet arrière-plan culturel qui n'explique pas tout, mais qui explique quand même une partie du vote pour le Brexit.
Il y a une autre dimension qui est intéressante et surtout par rapport à la crise évidente de notre système politique, c'est de voir que ce système parlementaire admirable britannique n'arrive pas en fait à fonctionner face à un épisode de démocratie directe comme un référendum.
Absolument. Vous mettez le doigt sur, je pense, un point très important. On a une crise du système politique britannique qui était tout à fait inattendu, j'allais dire, nous on a l'habitude, mais eux, ils sont censés avoir un système représentatif stable, consensuel et qui fonctionne. Or, ce qu'on voit depuis le référendum, et pour partie à cause du référendum, qui, par définition, est une contradiction avec le système parlementaire représentatif, on voit un parlement qui n'est plus capable de refléter l'avis de l'opinion publique, qui est en complet désaccord avec ce qui a été voté lors du référendum, et qui n'arrive pas à représenter les nouvelles divisions qui se sont fait jour avec ce référendum. Que ce soit les conservateurs ou les travaillistes, sont en grande difficulté aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un problème pour l'avenir.
Eh bien, merci à tous de nous avoir éclairés dans la mesure du possible sur le brouillard britannique. Merci à vous, Pauline Schlapper. Vous venez de publier Le Royaume-Uni et le monde après le Brexit, un excellent papier dans la revue Politique étrangère. Et puis, je rappelle votre livre, Le Royaume-Uni doit-il quitter l'Union européenne, à la Documentation française en 2014. Merci à Mathilde Lemoine. Vous avez publié avec Philippe et Thierry Madiès Les grandes questions d'économie et finances internationales, décoder l'actualité chez De Book Université. Vivien Pertuzot, chercheur associé à l'IFRI, avec un papier très intéressant lui aussi dans le Ramsès 2019, le gros Ramsès sur les chocs du futur. Dennis McShane qui a publié deux livres sur le Brexit. On verra si vos prédictions seront réalisées. Et merci enfin à Kevin O'Rourke qui a publié une brève et excellente histoire du Brexit chez Odile Jacob, ça vient de sortir. Merci à Eric Scholl, comme chaque samedi. Je vous rappelle que cette nuit, France Culture se met à l'heure britannique et à l'heure de la BBC, nuit spéciale Grande-Bretagne à partir de minuit avec des archives. Deux invités, Dennis Nolan de la BBC, Clémentine Beauvais, qui est une jeune auteure française qui vit en Angleterre. À la réalisation ce matin, Philippe Baudouin, à la technique, Audrey Guélil, Meryl Moneghetti a préparé cette émission comme chaque semaine. Et voici Hervé Gardette. Très bon week-end.